podcast RFHT.
Bienvenue dans cette édition spéciale de la revue francophone d'hémostase et thrombose. Vous allez entendre un podcast aujourd'hui avec un partage d'expérience sur un cas clinique qui va vous être présenté par le docteur Annie Roche, qui travaille au Centre des maladies hémorragiques à l'hôpital de Necker et qui va nous exposer un cas pédiatrique de thrombasthénie de Glanzmann.
Merci Roselyne, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Annie Roche, je suis médecin au Centre de traitement des hémophilies à Necker à Paris et donc je prends en charge les maladies hémorragiques. Et donc je vous présente aujourd'hui l'histoire d'une petite fille de 4 ans et demi qui a en effet une thrombasthénie de Glanzmann. Alors elle est arrivée de l'étranger il y a environ un an pour une symptomatologie clinique hémorragique qui évoluait depuis toute petite. Une symptomatologie faite surtout d'échymoses, d'hématomes, de saignements au point de ponction, en particulier les injections vaccinales. Et puis des gingivorragies et beaucoup d'épistaxis qui l'avaient menée à être transfusée déjà plusieurs fois dans son pays d'origine. Et puis elle est arrivée en France pour sa prise en charge, le diagnostic n'avait pas été posé. Et donc quand on l'a reçue en consultation, on a confirmé ce diagnostic de thrombasthénie de Glanzmann avec une mutation homozygote, sans antécédents familiaux particuliers, des parents non apparentés. Et elle a une petite sœur qui va bien. Alors, cette petite fille, au cours de l'année là, qui vient de s'écouler depuis qu'on la connaît, elle a effectivement pas mal de bleus, des saignements au point de ponction, et puis surtout des épistaxis que les parents arrivent à gérer le plus souvent au domicile par une compression locale ou l'application de petits tampons dans le nez ou la prise d'acide tranexamique. Et puis, ils y arrivent comme ça le plus fréquemment. Mais il arrive parfois que ces épistaxis soient prolongés et l'amènent évidemment aux urgences. Et donc, elle a eu quelques épisodes d'hospitalisation pour des épistaxis sévères qui ont nécessité des transfusions, de l'acide tranexamique, des perfusions de facteurs 7 activés, et puis parfois même des transfusions plaquettaires parce que le traitement mené n'était pas suffisant. Et puis, il y a eu un épisode relativement récemment, il y a 4 mois je dirais, très sévère, bilatéral, qui a nécessité beaucoup de transfusions et pour lesquelles le traitement par facteur 7 activé devenait insuffisant, et ainsi que malheureusement les transfusions plaquettaires puisqu'elles s'étaient allo-immunisées dans l'intervalle. Et donc on a finalement opté pour une artério-embolisation qui a été réalisée de manière bilatérale et qui a permis d'améliorer sa symptomatologie clinique, d'arrêter l'épistaxis au cours de l'hospitalisation. Ensuite, on a progressivement diminué les traitements, l'acide tranexamique et le facteur 7 activé, et puis elle est finalement rentrée chez elle. Et donc aujourd'hui, ça fait environ 4-5 mois cette histoire. Cette petite fille n'a pas récidivé d'épistaxis importante, tout du moins, et puis elle se porte bien. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour apporter cette histoire d'épistaxis sévère avec un recours à une artério-embolisation chez une petite fille allo-immunisée.
Merci Annie. Alors c'est vrai que dans les discussions sur les Glanzmann et sur les modalités de traitement, très souvent la question de la définition de l'inefficacité transfusionnelle plaquettaire est parfois pas forcément toujours simple et évidente pour tout le monde. Est-ce que vous avez vos propres critères en termes de quantité de plaquettes, ou est-ce que vous avez une surveillance biologique avec laquelle vous vous aidez pour pouvoir documenter éventuellement la recirculation de plaquettes normales? Quelle est votre habitude?
En effet, il est difficile de déterminer l'inefficacité complète de la transfusion plaquettaire. C'est vrai que cette petite fille, on savait qu'elle était allo-immunisée. On a malgré tout continué de transfuser des plaquettes au moment de cette épistaxis sévère. On s'est surtout basé sur l'efficacité clinique de cette transfusion. Il y a eu deux transfusions en réalité, deux transfusions plaquettaires au moment de cet épisode. Le premier a été, on va dire, partiellement efficace et le second, pas du tout. Les épistaxis voilà, s'aggraver sur les heures et voilà, la journée qui a suivi la transfusion. Et c'est là qu'on a finalement décidé d'aller à l'artériombolisation. Donc voilà, nous on s'est essentiellement basé sur des critères cliniques. On n'a pas pu réaliser de cytométrie en flux plaquettaire hein, après cette transfusion pour évaluer effectivement la double population éventuelle et voir si on était efficace. On ne l'a pas fait. Mais tout à fait, hein, c'est un outil biologique qui peut tout à fait aider voilà, à évaluer cette efficacité au moins sur le plan biologique.
Oui, bien qu'on ne sache pas forcément non plus quel est le pourcentage vraiment qu'il soit nécessaire à atteindre pour être réellement efficace. Et quels étaient les types de concentrés plaquettaires qu'elle avait reçus? C'était des plaquettes de poule ou c'était des concentrés d'aphérèse de donneur unique? Qu'est-ce qu'elle avait reçu?
Il me semble que c'était des concentrés d'aphérèse. Parce que c'est ce qui réserve en général au Glanzmann. Au Glanzmann allo-immunisé, et je crois même que sur les premières transfusions, alors ça il faudrait que je vérifie, je ne sais pas, mais je crois que sur les premières transfusions avant allo-immunisation, il est possible que ce soit aussi des concentrés de donneurs uniques.
En termes d'immunisation anti-plaquettaire, bien sûr, on pense à l'iso-immunisation contre la glycoprotéine manquante.
Oui.
Est-ce que vous avez pu aussi regarder si elle était immunisée contre si elle avait des anticorps anti-HLA qui étaient
HLA,
également
oui.
Présents?
Oui, absolument, absolument. Elle en a. Elle n'en avait pas après la première transfusion. Et là, aujourd'hui, elle est doublement allo-immunisée, on va dire. Elle a des anticorps glycoprotéines plaquettaires et anti-HLA.
D'accord, et les anti-HLA qu'elle a n'ont pas été à l'origine de réactions d'intolérance clinique à l'occasion de la transfusion plaquettaire?
Oui, tout à fait, non, les transfusions ont toujours été très bien tolérées, oui.
Les tests qui permettent de mettre en évidence ces anticorps, vous utilisez donc principalement les tests de MEPA ou est-ce qu'éventuellement vous documentez également l'aspect fonctionnel de ces anticorps sur des tests d'agrégation plaquettaire
Ouais, on utilise essentiellement le MEPA, on n'a jamais fait de test d'agrégation plaquettaire, effectivement. Ouais. On se base sur le MEPA, tout à fait. Ouais. Après, l'avenir, bon, si de nouveau un jour elle avait un épisode hémorragique sévère, il faudra effectivement qu'on arrive tout du moins à anticiper dans la mesure du possible. Voilà, les plaquettes le plus compatibles possible, au moins sur le plan anti-HLA, quoi.
Le choix du type de concentré est également débattu lorsqu'il s'agit de choisir des concentrés HLA compatibles ou non, notamment chez des personnes qui n'auraient jamais développé d'anticorps anti-HLA auparavant. Quelle est votre politique pour ce type de situation?
Ben, c'est vrai que la question se pose. Nous, classiquement, chez les patients jamais encore transfusés ou en tout cas pas allo-immunisés, on a plutôt tendance à transfuser des plaquettes un peu tout venant et puis à adapter la transfusion plaquettaire après en fonction de l'allo-immunisation éventuelle. Voilà, je ne sais pas si toutes les équipes font pareil, mais effectivement, c'est une question qui se pose, ouais, tout à fait.
Et en termes de d'inefficacité dans le contexte de ce cas clinique du set activé recombinant à stopper le saignement. Est-ce que vous avez eu d'abord une étape avec une augmentation de la dose, éventuellement un rapprochement, et jusqu'à combien étiez-vous monté avant d'envisager la transfusion plaquettaire?
Oui, absolument. En fait, on injectait un peu plus de 90 microgrammes par kilo de facteur 7 activé, on va dire. On arrondissait, je pense qu'on était plutôt entre 100 et 110 microgrammes par kilo par injection. Et donc, au tout début, on perfusait ce produit toutes les 2 heures. Et puis, quand on a vu que ça s'améliorait un peu, on a espacé toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Et au moment de l'espacement, effectivement, c'est là qu'elle se remettait à saigner et qu'on rapprochait de nouveau toutes les 3 heures, toutes les 2 heures. Et donc, à un moment, effectivement, on s'est posé la question d'une espèce de dépendance à cette thérapeutique et peut-être même à envisager une espèce de prophylaxie par la suite. Mais c'est vrai qu'au moment de cet épisode aigu, on va dire que la recrudescence de cette épistaxis survenait au moment de l'espacement des perfusions. Et voilà, on n'arrivait pas à se sortir de ce rythme de traitement à toutes les 2 heures. Et donc, c'est là qu'on a transfusé des plaquettes et on l'a fait à 24 heures d'intervalle et ces plaquettes n'étaient finalement pas très efficaces non plus. Et donc, c'est là qu'on a envisagé l'artériembolisation. Mais c'est tout à fait vrai, hein, cette histoire d'espèce de dépendance comme ça aux perfusions de facteurs 7 activés. Ouais.
Et donc, depuis le moment où elle s'est présentée dans le service des urgences et le moment où elle a arrêté de saigner grâce à l'artério-embolisation, à la fin de cette histoire, il s'est écoulé combien de temps?
Je dirais bien 3 semaines.
Oui, donc ça a été vraiment quelque chose de semi-aigu ou presque chronique finalement sur
ça a été long.
L'évolution.
Ça a été long. Et elle était transfusée en rouge aussi. Je ne sais pas, elle a dû être transfusée 4 fois en rouge. 4 fois en rouge, 2 fois en plaquette. Et puis du facteur 7 activé très fréquemment, quoi.
Oui, ce qui va, compte tenu du profil hémorragique assez complexe pour cette petite fille, sûrement nécessiter un accompagnement très étroit au moment de ses premières règles. Donc, j'imagine.
Ah, oui, absolument. Absolument. Alors ça va être une des étapes de la vie de cet enfant. Effectivement, les règles, je crains qu'elles soient effectivement bien abondantes. Mais bon, on verra, on va essayer d'anticiper au mieux, hein, comme on fait pour les patients dont on sait qu'elles ont un risque hémorragique.
Et dernière question peut-être sur les anticorps anti-2B3A qu'elle a développés au décours de cet épisode et les anti-HLA. Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de recontrôler un peu à distance et voir si elle avait pu se débarrasser de ses anticorps ou est-ce qu'ils sont toujours présents ou peut-être à titre plus faible, enfin titre, sachant qu'on n'a pas forcément de titre sur ces résultats du MEPA, mais...
Oui, absolument, absolument. Ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Là, aujourd'hui, on est à 4-5 mois de l'épisode. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là sur le bilan d'il y a une quinzaine de jours.
Alors, en fait, j'ai encore une autre question. C'était mon avant-dernière question tout à l'heure. Et là, j'aurais souhaité savoir si vous êtes amené à lui donner une supplémentation en fer régulière. Est-ce que vous le donnez par voie orale? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que vous êtes malgré tout obligé d'envisager des injections intraveineuses pour pouvoir corriger les carences en fer qui, j'imagine, sont assez chroniques et fréquentes chez ce type d'enfant?
Oui, tout à fait. Alors, chez elle en particulier, le traitement Péros marche très bien. Elle est très observante, elle le prend, elle n'a pas d'effet secondaire. Donc, c'est une petite fille très mignonne et qui fait encore tout ce qu'on lui demande de faire. Donc, vraiment, on n'a pas de souci, elle le prend bien et c'est relativement efficace. Hein, et elle a plus d'anémie hein, depuis cette histoire d'épistaxie, depuis la sortie d'hospitalisation. Maintenant, c'est tout à fait vrai qu'il y a certains patients pour lesquels il y a parfois d'autres épisodes de saignement. Il y a des gingivorragies chroniques, des ménorragies, des épisodes un peu comme ça qui conduisent à ce que finalement la prise de fer soit finalement insuffisante par voie orale. Et il arrive effectivement parfois qu'on perfuse du fer régulièrement en hospitalisation de jour chez les patients porteurs de thrombasténiance, en effet. Mais bon, c'est pas le cas chez cette petite fille pour l'instant.
En tout cas, merci beaucoup Annie d'avoir partagé ce cas très intéressant avec nous. Et il me reste à vous remercier tous de votre attention et à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Merci.
Merci.
Podcast RFHT.